Bonjour, Michel Joly, retraité au Mas d'Asile. Je voulais simplement rajouter une notion à ce que vous avez dit à propos des laboratoires pharmaceutiques qui s'inspirent largement des productions naturelles pour dénoncer la brevetabilité du vivant. Il me semble que dans votre exposé, il faut aussi faire allusion à ce danger. Il y a aujourd'hui énormément de molécules actives qui sont issues de découvertes qui ont été faites par l'homme, mais pas par les laboratoires. Ce sont par les peuples autochtones qui, la plupart du temps, sur des années et des années, ont su sélectionner des produits actifs. Et il n'est pas normal qu'ensuite une multinationale vienne s'emparer de ce produit actif, le brevette comme si c'était une découverte, sans aucune rétribution et sans aucun retour pour les vrais auteurs, les vrais inventeurs de ces molécules que sont les populations autochtones. C'est important parce que tout ce que vous avez dit sur la biodiversité correspond aussi à la nécessité de protéger la diversité culturelle et la diversité ethnique sur notre planète. Je vous remercie.
Alors, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça parce que je suis tout à fait d'accord. Mais simplement pour vous signaler que, en fait, la biodiversité n'est pas complètement indépendante de la diversité ethnique précisément. Il y a eu, par exemple, une étude il y a quelques années qui a démontré qu'il y avait une corrélation très très forte entre la biodiversité dans pas mal de groupes existants à l'heure actuelle et puis la diversité linguistique des communautés locales. Et la perte de biodiversité était fortement corrélée avec la perte de cette diversité linguistique, ce qui effectivement tend à soutenir cette idée que les deux sont tout à fait liés.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention ?
Christiane Meurice, je suis à Rénova, qui s'occupe du patrimoine fruitier. Donc, je viens d'une réunion à Pau sur les semences paysannes. C'était une rencontre internationale. Et j'ai vu que, au niveau de la biodiversité, on arrive dans les pratiques culturelles. On parle maintenant de l'agroforesterie. Et donc, on passe de l'arboriculture à cette... Et on voit des résultats très étonnants et de cette complexité et qui fait que tout produit est plus et mieux. Enfin, on était allé trop loin dans les monocultures, dans la séparation des... Et là, maintenant, on vient à voir ce que c'est que le monde complexe et ces rapports entre les différents éléments vivants. Et je pense que c'est sur ces relations entre vivants qu'il faudrait travailler. C'est pas sur la matière. La matière, on a parlé jusqu'à maintenant de la matière. Maintenant, c'est cette relation entre vivants et comment ça se passe. Voilà.
Oui, là, à nouveau, je suis d'accord. C'est un petit commentaire sur l'agroforesterie qui est une pratique traditionnelle, en fait, dans pas mal de pays, notamment sous les tropiques, qu'on a eu tendance à détruire suite à la colonisation, etc. Et puis maintenant, on se rend compte que c'était peut-être pas si stupide que ça. Et c'est... Enfin, il y a des exemples assez... Bon, là, c'est pas un exemple d'agroforesterie, mais c'est un exemple qui est très frappant concernant, par exemple, la culture du riz. Il y a une étude tout à fait scientifique publiée dans la plus grande revue scientifique qui a testé la différence entre l'efficacité de la culture moderne, qui est basée sur la monoculture, mais là, pas en termes d'espèces, mais en termes de diversité génétique. On prend une seule variété, la plus productive. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui là, dans la plupart des pays. Et puis, on a comparé ça avec l'efficacité de la culture traditionnelle de riz, qui est toujours une monoculture au sens d'une seule espèce, mais qui mélange plusieurs variétés. Et il s'avère que pour maintenir la monoculture de l'espèce la plus productive, il faut balancer toute une série de pesticides et de fongicides, parce que sinon les maladies envahissent directement, donc avec un effet, une perte de rendement d'un facteur 10, donc tout s'effondre en fait. Et quand on utilise la méthode traditionnelle, simplement par le seul facteur qui variait dans l'expérience, c'était juste de mélanger deux variétés, c'était tout. Eh bien, avec ça, il n'y avait plus besoin de pesticides ou de fongicides et la production était quasiment identique à celle de la variété la plus productive. Donc, ce qui montre bien que les connaissances traditionnelles qui existaient auparavant Ben, elles sont pas nécessairement inférieures à ce qu'on, enfin, à ce que, aux nouvelles formes d'agriculture plus modernes qui sont basées surtout sur une autre idéologie. Il y a toute une idéologie derrière, mais c'est pas nécessairement le plus efficace toujours. Ça dépend des situations.
Oui, Shapira Félix, je fais partie de la coalition Climat en Ariège qui vient de se créer et qui est liée à la coalition Climat 21 qui prépare la COP 21 fin novembre, début décembre. Ma question est la suivante, la question de l'extractivisme. À l'heure actuelle, c'est un élément fondamental de notre source d'énergie, que ce soit le charbon, le pétrole, les gaz de schiste et autres. Et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a un lien entre cette situation d'extractivisme et la question de la perte de biodiversité?
C'est une très très bonne question qui va me permettre de discuter un peu peut-être du lien et de la différence entre, entre climat et biodiversité. Je pense que c'est un aspect qui est justement manquant dans la discussion sur le climat. C'est-à-dire que il y a une intervention là tout à l'heure qui a précisé que pour le moment on était occupé à discuter des derniers termes. Il y avait quatre termes. On est occupé à essayer en fait de discuter sur réduire la consommation de carbone par unité consommée. Et donc on ne discute pas des deux premiers facteurs qui étaient la facteur population et consommation ou production. Donc on est en train de faire varier des notions d'intensité. Alors ce qui est fondamental, bien entendu, il faut se rendre compte que du point de vue de la biodiversité, ce n'est pas tellement la forme d'énergie qui va avoir un impact. Enfin, ça va avoir un impact, disons, indirectement par le changement climatique qui risque de devenir un des facteurs très importants de la perte de biodiversité. Mais d'un point de vue direct, le premier facteur encore à l'heure actuelle de perte de biodiversité, c'est la destruction d'habitat. Et on détruit de l'habitat. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a une population humaine qui y croit, parce qu'on a surtout une production qui augmente, y compris les fameux biofuels, qui sont en train de détruire toute une partie de l'Amérique du Sud sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'on a décrété que c'était une énergie renouvelable. Mais en fait, elle est renouvelable peut-être du point de vue du bilan de carbone, mais pas du tout du point de vue de la biodiversité. C'est un massacre absolument généralisé. Donc, je pense que dans les discussions sur le climat, ce serait vraiment important de ne pas se focaliser uniquement sur le bilan carbone, mais aussi sur le bilan en termes de biodiversité. Et là, jusqu'ici, je suis désolé, mais on n'a pas vraiment pris des mesures suffisantes pour protéger la biodiversité. Enfin, bon, on va dire pour le climat non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un lien mécanique entre les deux, quoi. C'est un lien complexe.